J'ai d'abord fait une présentation, s'il y en a qui ne connaissent pas, ou peut-être je ne sais pas si vous connaissez, et puis on verra bien. En fait, j'ai beaucoup parlé de perspective mondiale. Pourquoi perspective? Parce qu'il s'agit surtout d'un changement de perspective, d'un changement de point de vue. D'une façon générale, tout se passe comme si, en fait, non, nous sommes avec un champ de vision très restreint. Comme si on avait un champ de vision très restreint. Un peu comme lorsqu'on est concentré sur une tâche. On n'entend plus les sons alentours. On n'est plus attentif qu'à ce qui est là sous nos yeux. Et donc, changement de perspective, c'est-à-dire que c'est comme dézoomer et ne plus être centré sur rien de spécial. Et ça arrive. Et du coup, le champ de vision est beaucoup, beaucoup plus large. Ça n'exclut pas la vision qu'on avait avant, ça l'inclut complètement. Le champ de vision est plus large et beaucoup plus inclusif. Et non-duel, ça veut dire quoi? Ça veut dire non-deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux. En réalité, on pourrait dire qu'il n'y a même pas un, parce que c'est avant tout concept. La manière dont moi j'aime bien le présenter, c'est de dire, en réalité, contrairement à ce qu'on croit depuis très longtemps, il n'y a pas d'individu séparé. Il n'y a pas de moi. Il n'y a pas un moi, individu séparé, qui pense par lui-même, qui pose des actes par lui-même, et qui fait des choix. Tout arrive de soi-même. Tout arrive spontanément de soi-même. Autrement dit, ça veut dire que comme il n'y a pas de moi, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais, aucun moi n'a jamais rien fait, il n'y en a pas. Le Père Noël n'a jamais rien fait, il n'y en a pas. Mais croire au Père Noël a un effet certain. On attend les cadeaux sous le sapin et on prie pour que le Père Noël nous apporte ce qu'on a désiré. Et croire à un moi a des effets. On croit qu'on est responsable de ce qu'on fait, on croit qu'on doit faire les bons choix, on croit énormément de choses qui nous pourrissent la vie. Parce qu'en réalité, on n'a pas le pouvoir de choisir, et donc de faire le bon choix ou le mauvais choix. Ni l'un ni l'autre, etc., etc. Un exemple que j'aime bien prendre aussi, c'est celui de la Terre. Autrefois, on pensait que la Terre était plate. Elle tournait quand même sur elle-même, et les saisons alternaient, quand même. Et on pouvait quand même semer les graines, et elles poussaient quand même. Simplement, on avait peur d'aller très loin en bateau, parce qu'on aurait risqué de tomber dans le trou. Le jour où on a compris qu'elle était ronde, la Terre a continué à tourner sur elle-même, les saisons ont continué à alterner, on a continué à semer des plantes. Mais on n'a plus peur de tomber dans le trou. On n'a plus faire le tour de la Terre. Le changement de perspective, c'est quelque chose de cet ordre-là. Réaliser qu'il n'y a pas de moi, que le moi est illusoire. Il n'y a pas que le moi qui est illusoire. En réalité, tout ça est illusoire. Mais c'est une autre histoire, j'ai envie de dire. Réaliser que le moi est illusoire nous libère de pas mal de peurs, nous libère d'une vision étriquée, nous libère de l'idée qu'on peut bien ou mal faire. Ça ne veut pas du tout dire que tout est permis, c'est pas un blanc-seing pour faire tout et n'importe quoi. Ça, ce serait une récupération mentale, entre guillemets. Ça n'a rien à voir avec le propos d'aujourd'hui. Ça veut dire que tout est toujours arrivé de soi-même. Il est évident, toutes les mamans qui sont là le savent bien, il est juste impossible de ne pas prendre soin de son bébé. Et celles qui ont allaité le savent bien, il suffit qu'il pleure pour que le sein coule. Ça arrive de soi-même, il n'y a pas besoin d'y penser, il faut que je produise du lait et pour que mon bébé boive. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui se font tout à fait naturellement et on le sait bien. Est-ce que vous avez déjà choisi de tomber amoureux ou amoureuse? De tomber par terre? De tomber enceinte, on parle aussi, enfin, etc. Il y a plein de choses, on sait très bien que ça arrive de soi-même. En réalité, tout arrive de soi-même. Et la nature fait très bien les choses. Lorsque vous tombez enceinte, le bébé pousse tout seul dans le ventre, vous mangez juste un peu plus, et un jour, il sort parce que c'est le temps. Ça se fait de soi-même. Et vous ne choisissez pas. Bon, aujourd'hui, on essaie de choisir, de déclencher l'accouchement, etc. Mais tout ça, c'est lié à des pensées dans la tête. Bon, ben voilà. Mais en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que je me suis assis là, on est rentré en relation, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire, de ce que j'allais dire, de comment ça allait se passer. Je me suis mis à parler, je vous ai expliqué des trucs, puis maintenant ça s'arrête. Enfin, ça s'arrête. Je vois que vous souriez, ça me fait plaisir. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit pour vous? Vous étiez la seule à pas savoir de quoi on parlait, oui. Désolé.
Pas trop, non. C'est-à-dire de pas. On choisit quand même ce qu'on fait.
Voilà, je pense qu'on choisit ce qu'on fait. Alors vous remarquez quand on dit quelque chose comme ça, ça commence par je pense que. Alors j'ai une première question. Est-ce que vous pensez vos pensées ou est-ce que les pensées apparaissent? Regardez et regardez les autres aussi en même temps.
Les pensées apparaissent.
Les pensées apparaissent. Tout le monde est d'accord là-dessus? Donc quand on dit je pense que, c'est une bêtise. Parce que je ne pense pas, ça pense. Il y a une pensée qui apparaît. On dit bien ça me gratte. On sait que c'est pas moi, je me gratte, c'est si je fais quelque chose. Vous voyez, on fait un peu la distinction avec les pensées, on ne la fait pas. On dit tout le temps je pense que, mais non. Ça pense, la pensée apparaît. Donc dire je pense que est toujours faux. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça un jour? Enfin, peut-être ceux qui connaissent la mondialité, mais sûrement pas à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, ainsi on construit notre vie sur des erreurs aussi monstrueuses que celle-ci, qui est visible dès qu'on y regarde un tout petit peu. Et on agit en fonction de cette croyance je pense. Mince, je pense pas.
Il y a quand même des fois où on pense.
Ah, quand?
Eh bien, quand on réfléchit.
Alors, est-ce que la réflexion, c'est toi qui l'amènes? Ou bien est-ce que les pensées s'associent les unes derrière les autres?
On peut avoir les deux.
Alors, dans quel cas?
Eh bien, quand on réfléchit à un sujet précis, on
lequel
construit
oui
des pensées
oui, par
qui
exemple
apparaissent.
Par exemple,
donc,
oui.
Peut-être que la réflexion vient en deuxième étape de ce processus.
Exemple précis.
Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui.
Oui.
Donc, ça apparaît.
Oui.
Et donc, à la suite de ça, la réflexion m'est donnée que vous devez être un orateur très intéressant.
Oh, c'est très gentil. Mais la deuxième pensée, est-ce que vous l'avez pensée vous ou est-ce qu'elle est apparue?
Eh bien, en fait, c'est le produit de la première pensée qui est apparue. Mais c'est quand même une réflexion.
Non, il y a une association d'idées.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il y en a plein qui trouvent que je ne suis pas intéressant. Dans d'autres villes, dans d'autres endroits. Je ne sais pas.
Il y a une déduction logique.
Oui, c'est une déduction.
On en parlait l'autre
jour. Il semble qu'il y ait une déduction logique dans certains cas. Alors, on va séparer. On va séparer deux choses. Le mental discursif, celui qui raconte des histoires, comme celui-là, par exemple, qui dit « Ah, il doit être un orateur très intéressant vu le monde qu'il y a ce soir. » En fait, c'est juste une pensée. On n'en sait rien du tout. Et puis, 2 et 2 égale 4, 4 et 4 égale 8, et 8 et 8, ça fait combien? Là, il y a une réflexion.
Là,
parce qu'on va faire appel, en fait, à la mémoire dans un cas comme ça. Il peut y avoir aussi une... La déduction logique, elle, je ne suis pas du tout certain qu'il y ait un peu un phénomène de pensée personnelle là-dedans. Il y a des associations d'idées et il y a, dans la déduction logique, appel à la mémoire. Mais après, il faudrait prendre des exemples très concrets. Mais en tout cas, si on parle, on va parler ce soir que du mental discursif, celui qui raconte des histoires, entre guillemets, celui qui teinte la réalité. L'orateur est intéressant, vu le monde qu'il y a. C'est une teinte, on dit « Ah là là !» Tout de suite, il y a... Hein? Derrière, il y a un impact émotionnel, il y a... C'est ce que j'ai appelé une histoire. C'est ce qu'on appelle le mental discursif. Sans critique aucune, on a tous ça. On a tous ça. Et celui-là, il est automatique. Il est, enfin, pour moi, nous ne pensons pas, les pensées apparaissent. Et on pourrait dire le cerveau, pour dire des mots, parce que j'en suis même pas certain, le cerveau est un organe de perception des pensées. De même que le corps perçoit des sensations, perçoit des images, entend des sons, il perçoit des pensées. Et si vous regardez, ceux qui ont l'habitude de méditer un petit peu, si vous regardez... j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, si vous regardez comment apparaissent les pensées, vous allez voir que en méditation, par exemple, ou le soir avant s'endormir, ou la nuit quand on est réveillé, il y a plein de pensées qui apparaissent et elles passent. Et celles qui passent, elles ne nous empêchent pas de dormir, on peut très bien s'endormir. Puis si jamais il y en a une qui est accrochée, ah, il ne faut pas que j'oublie ça, terminé. Ça se cristallise, ça s'accroche à la pensée. Ou si on repense à un truc qui s'est passé dans la journée, oh là là, t'as vu ce qu'il a fait, là, c'est fini. Ça s'accroche. Et ça se met à tourner. Ou là, on est juste figé sur une idée, sur une pensée, sur une sensation, une émotion, etc. Mais en réalité, de même qu'il y a plein de sensations physiques dans le corps, tout le temps, et qu'il y en a très peu dont on se soucie, souvent vous clignez des yeux, mais on n'en a pas tout le temps conscience. En ce moment, vous sentez vos pieds, vous sentez les fesses sur le sol ou sur la chaise, etc., etc. Il y en a qui hochent la tête à certains moments. Toutes ces sensations, il y en a plein d'autres dans le corps, des sensations en permanence, on n'y fait pas attention. Puis on bouge, on se gratte, ou n'importe, on n'y prête pas attention. Mais s'il y a une douleur vive, alors là, quand un moustique nous pique, là, saleté. Ouais, tout de suite, là, la tension se porte là-dessus. Et avec les pensées, c'est pareil. Avec les yeux, c'est pareil. En ce moment, vous entendez la clé vient de se mettre en route. Mais si je n'attire pas votre attention là-dessus, ça passe, mais je ne fais pas attention. Vous entendez le son de ma voix. Mais est-ce que vous entendez aussi le grincement de la chaise? On l'entend, bien sûr, mais on n'y fait pas attention. Et pareil pour le regard. On voit des taches de couleur de gauche et de droite, mais on regarde une chose et on est concentré sur ce qu'on regarde. Mais le reste est quand même là. Imaginez le sourire de la Joconde avec rien autour. Ça ressemble à rien. Il faut qu'il y ait un fond. Alors on se concentre à le sourire de la Joconde, on n'en a pas besoin de parler. Alors on regarde le sourire de la Joconde. Mais sans le reste du tableau et sans le mur autour, ça ressemble à rien. Et puis on peut aussi, à un moment donné, dézoomer, regarder le tableau en entier, ou regarder un autre point du tableau. Et alors, la focalisation change. Mais tout a tout le temps été là, tout le temps. Et quand on regarde le sourire de la Joconde, on oublie le reste. Etc. C'est pareil. C'est tout le temps comme ça, en fait. C'est tout le temps comme ça. C'est un mécanisme naturel du corps humain. Et donc les pensées, vues d'ici, sont perçues comme des sensations sont perçues. Et on y fait attention ou pas. Et on s'y accroche ou pas. On en fait une histoire ou pas. On s'y intéresse ou pas. Donc, nous ne pensons pas, les pensées arrivent. Et la fin de la phrase, c'était, je pense que... J'ai oublié. Ouf, je ne suis pas le seul. Quelle était sa phrase de la question ? Oui, comme la mémoire est sélective aussi, non ?
Je pense qu'on a décidé de faire que ce que l'on veut faire.
Ah oui, c'est une histoire de choix. Je pense que les choses qu'on choisit. Merci. Voilà. Je pense que je choisis. Ok. Alors, donc, deuxième partie de la phrase, je choisis. Qui a déjà fait un choix ici? Personne? Non, j'ai tout compris. Vous n'avez pas fait le choix de venir ce soir. Soyons clairs. Apparemment. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Pardon? Une ou deux réponses, allez. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Pourquoi vous êtes venu ce soir? Vous ne saviez pas à l'avance qu'il y aurait plein de monde et que le conférencier serait intéressant. Donc. Il y a eu une information. Exact. Il y a eu quelque chose d'organisé. Vous avez un pouvoir de choix là-dessus? Sauf l'organisateur. Vous aviez le choix de venir ou de ne pas venir. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu? On me l'a conseillé. La motivation. La curiosité. Motivation, curiosité, d'où ça vient? Comment ça se fait que vous êtes motivé par ce sujet ou curieux de ce sujet? Est-ce que cela vous appartient?
Oui, hein.
Oui, ça vous appartient, vous avez choisi d'être motivé par le sujet, d'être curieux de ce sujet.
Quand même, oui, je pense que chaque personnalité choisit ou pas ce qu'il veut.
Oui,
je pense que ça vient.
Ça dirait aussi.
Attendez, une chose à la fois, je pense que chaque personnalité choisit de.
Choisit sa nourriture, en fait.
Chaque personnalité choisit sa nourriture. Je pense que, donc déjà un peu enlevé. Chaque personnalité choisit sa nourriture. Est-ce vrai? Est-ce que vous en avez la preuve? Parce qu'on voit des gens qui se font du mal. On voit des gens qui mangent des choses pas saines. On voit des gens qui s'abrutissent devant la télé.
C'est leur choix.
Ah, on va commencer une discussion de fond. Non, pas forcément. Est-ce qu'on peut être sûr à 100% que chaque personnalité choisit sa nourriture? En fait, on n'en sait rien. Je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis qu'on n'en sait rien. Et quand bien même vous auriez choisi votre nourriture, c'est-à-dire quelque chose de... une perspective non duelle, une approche non duelle. Qu'est-ce qui fait que vous êtes nourri par cette perspective? Ou par le yoga, ou par la méditation, ou par n'importe quoi d'autre?
Un appel intérieur.
Vous choisissez l'appel intérieur?
Non.
Non, il apparaît de lui-même. Quoi d'autre?
Notre expérience.
Notre expérience. Vous avez choisi toutes les expériences que vous avez vécues? Non. Quoi d'autre? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? On ne choisit rien parce que les motifs de nos choix ne sont pas choisis. Ils sont conditionnés, ils sont liés à la personnalité telle qu'elle fonctionne, et c'est vrai qu'on est tous différents et qu'on est attirés par des choses différentes. Heureusement.
On a le déterminisme, quoi.
Oh, mais ça, pour moi, déterminisme, c'est une pensée, c'est une idée. Oui et non. Et j'ai envie de dire non et oui. C'est-à-dire que d'un point de vue délicat, je refuse l'idée de déterminisme en tant que je suis une marionnette. Et évidemment que tout est déterminé parce que tout est déjà dans la bobine. Vu d'ici, je ne parle même pas de croyance, je parle. Là, il y a une poutre et tout est déjà dans la bobine. Et tout ça est illusoire. Pour moi, c'est la même réalité. C'est-à-dire, d'un point de vue de la vision, il n'y a aucun choix. Et on pourrait parler de déterminisme. Mais on ne peut parler que du déterminisme, d'une illusion. Parce que vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas cet organisme. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Et en tant que ce que vous êtes, l'idée même de déterminisme est totalement absurde. On pourrait dire que un doigt est un doigt parce que c'est du déterminisme. Il y a des cellules fœtales qui un jour se différencient en doigts. C'est un déterminisme absolu. Ça ne dit rien sur le doigt. Et ça ne dit rien sur ce que vous êtes. Vous comprenez ce que je veux dire? La différence? C'est-à-dire que le but ici, c'est vraiment de... Tous les mots trompent. On pourrait dire d'élargir la perspective, on pourrait dire de laisser tomber nos schémas, nos idées, nos concepts, nos croyances. Imaginez un instant que il n'y a plus de pensée. Vous ne fassiez pas du tout appel à la pensée. Vous ne fassiez pas du tout appel à la mémoire. Et vous fermez les yeux. Vous pouvez le faire. Et hors de toute pensée, hors de toute mémoire, de toute idée à propos d'eux, ressentez ce que vous sentez. Restez avec les sensations corporelles. Les sensations, même pas corporelles. Et si vous faites juste, si vous regardez juste les sensations, et que vous oubliez la mémoire, que vous oubliez tout ce que vous savez à propos du corps, l'image que vous avez vue en avant dans la glace, toutes les idées à propos de tout cela, juste avec la sensation telle qu'elle est, avec les sensations telles qu'elles sont, est-ce qu'elles sont limitées, illimitées, séparées les unes des autres, ou non, et reliées, si elles sont reliées, comment? Par quoi? Est-ce qu'il y a la conscience de ce qui les relie ou non? Est-ce que le corps apparaît comme quelque chose de limité, avec une enveloppe bien fermée ou pas? Enfin, le corps. Est-ce que les sensations déterminent l'idée d'un corps limité? Oui. Les autres?
Non, c'est l'espace.
Non, c'est l'espace. Comment vous décririez ça?
C'est sans limite.
Sans
limite.
Sans limite. Mais encore. Où se situe où se situent les sensations?
De partout. C'est...
Pardon?
Aux extrémités, par exemple, sur les pieds.
Mais là, ça, les pieds, ça fait appel à un référent, à une idée, à une mémoire. Mais si vous effacez la mémoire et que vous n'avez pas les yeux, vous ne savez pas que c'est les pieds.
C'est un tout.
C'est un tout.
Un vide, peut-être.
Un espace, un vide, oui. Au sein duquel apparaissent des sensations. Et ce vide, il est conscient ou il n'est pas conscient? Si j'en parle, c'est bien qu'il est conscient.
C'est la parole, en fait, qui m'a venue, moi.
Ah oui. C'est-à-dire que si je ne fais pas appel à la mémoire, à l'image, à la pensée, il y a conscience d'un espace au sein duquel apparaissent des sensations. Ce n'est pas limité. On change de référent. Il n'y a pas l'idée « je suis ce corps » sans la vision à la glace. À mon avis, ça, c'est une pensée associée. Parce que ça ne peut pas être vide ou trop plein, déjà sans une idée de vide ou de trop plein, et sans une étiquette là-dessus. Parce que agréable, désagréable, c'est aussi une pensée. On croit que les pensées, que les douleurs, sont souffrantes. C'est faux. Une douleur, c'est une douleur. Pour que ça devienne une souffrance, il faut qu'il y ait des pensées associées et que ces pensées soient crues. On y croit. Imaginez que vous alliez maintenant subir une douleur très forte pendant une demi-seconde, mais très très forte. C'est grave ? Une demi-seconde, après c'est fini. Est-ce que c'est grave ? Non. Imaginez que vous allez avoir une douleur chronique jusqu'à la fin de vos jours. Pas très très douloureuse, mais jusqu'à la fin de vos jours. On en fait plus facilement une histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas la douleur qui est insoutenable, c'est l'histoire qu'on se raconte autour. Et c'est pas le vide qui est désagréable, le trop-plein qui est désagréable, c'est l'idée que c'est trop ou pas assez. Ben oui, mais il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que si vous fondez votre vie sur l'idée qu'on est à venir en aide à certaines personnes, bonjour l'enfer. Parce qu'en plus, il y en a pas mal qui vont résister. Beaucoup de gens veulent être libres, pas qu'on les aide, et que si jamais on les aide, et ben c'est eux qui vont s'aider eux-mêmes et pas vous qui allez les aider. Et puis, etc., etc. Mais surtout, l'idée que nous sommes là pour aider les autres, c'est une idée, c'est une pensée crue, donc une croyance. Et elle conditionne notre expérience. Ou est-ce que... Enfin, je ne vais pas dire où est-ce que c'est écrit, si c'est écrit. Mais est-ce qu'on peut être sûr à 100% que nous devons aider les autres comme, un, vous voyez, comme quelque chose à faire. Comme une stratégie de vie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas à aider les autres. Je ne serai même pas là ce soir s'il n'y a pas d'aide. Non, il n'y a pas d'aide en fait. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas à se préoccuper des autres.
Non, je ne parle pas de l'extrême, mais quelquefois,
oui.
Voilà, ça se présente un peu.
Qu'est-ce qui se présente ?
Des gens qui ont un certain mal-être, auxquels ils ne peuvent pas mettre le doigt sur lequel ça ne va pas, mais ils ont la conscience ou d'un vide ou d'un trop-plein.
Oui. Et alors ?
Et alors, quelquefois, selon le travail que vous faites, ils vous demandent de l'aide.
Oui. Et alors ?
Non, c'est pas évident.
Oui. Et alors ?
En,
est-ce que c'est embêtant ?
Ah non, non. Mais on parle de pensée, donc je pense à ça parce que c'est pas forcément une pensée, c'est un ressenti qu'ils ont et ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur...
Ok, je vois ce que vous voulez dire maintenant.
Ils n'ont pas conscience non plus.
Pour moi, avec la réalisation qu'il n'y a pas d'individu séparé, qu'il n'y a rien là, est apparue aussi une évidence très 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 claire. Tout mal-être, du plus petit malaise à la plus grande des souffrances, est toujours dû à une ou des pensées crues, à des croyances. Il n'y a pas d'exception. À ma connaissance, il n'y a aucune exception. Tout mal-être, du plus petit malaise à la plus grande des souffrances psycho-émotionnelles, je ne parle pas de douleur physique, est toujours lié à une ou des pensées crues. Il n'y a pas d'exception. Ça veut dire qu'en réalité, nous ne souffrons que des pensées crues. Dès que la croyance s'effondre, c'est toujours des fausses croyances, c'est toujours cru à tort, dès que les croyances s'effondrent, il n'y a plus de souffrance. C'est pour ça qu'on dit que la souffrance est illusoire dans le bouddhisme, par exemple. C'est illusoire en ce sens que c'est créé toute pièce à base de pensées crues, sur rien, sur du vent. Vous voyez, comme les jeunes, les hommes qui avant avaient peur de tomber dans le trou s'ils allaient trop loin en mer. Ils peuvent souffrir de leur peur, ça n'a juste aucun sens, il n'y a pas de trou. Et c'est tout le temps comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quelle que soit la souffrance que vous ayez pu ressentir un jour, elle a toujours été liée à des pensées crues. Mais c'est même facile à voir. Regardez, prenez une fois où vous avez été blessé dans la vie. La plus terrible de toutes, ou n'importe laquelle qui vous vient à l'esprit. au moment où vous avez été blessé, il y a eu des pensées que vous n'avez peut-être même pas conscientisées, du style ça se fait pas, il aurait pas dû faire ça, quel salaud, enfin je sais pas, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit à ce moment-là? Quelles sont vos pensées à propos de ce qui est arrivé? Ça va? Vous avez des pensées? Vous avez des idées à ce sujet-là? Imaginez que ces pensées-là ne soient jamais apparues. Est-ce que vous auriez été blessé? Non. Non. Imaginez que ces pensées soient apparues, mais qu'elles n'aient pas été crues, qu'elles n'aient pas été saisies, qu'elles soient passées. Elles apparaissent, oh, il aurait fallu faire ça. Puis ça disparaît. Bah si, après tout, pourquoi pas, qu'est-ce que j'en sais? Ou n'importe quoi d'autre. Il y a un moment où, oh, ça heurte un clou, et il n'en reste rien. Ça disparaît, on n'est pas blessé. Donc à chaque fois qu'on a été blessé dans notre existence, c'est parce qu'il y avait des pensées crues. Et c'est pareil pour tout le reste, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce n'est pas les pensées qui créent la blessure, ça fait juste une petite seconde d'accroche, c'est le fait qu'elles soient saisies, qu'elles soient crues, qu'elles soient prises pour vraies. Que l'on croit que ces pensées disent quelque chose à propos de la réalité, à propos de nous, à propos de l'existence, à propos de l'autre. C'est faux. C'est juste faux. C'est comme ça qu'on crée notre enfer. C'est comme ça qu'est créée la souffrance. Et l'une des pensées, la pensée qui crée, bon, je ne savais pas trop comment dire, mais je vais dire comme ça ce soir, la pensée qui crée la plus grande souffrance et celle qui nous tient le plus, qui nous chemine le plus au corps, c'est la pensée « moi », la pensée « je ». Parce qu'elle sous-entend que c'est moi qui pense, qui agit, qui choisit, et donc, qui me trompe, qui fait les mauvais choix, ou qui fait les bons, parce que l'enthousiasme aussi, parfois après, ça mène à la catastrophe, en fait, etc. Et toutes les phrases qui commencent par « je », et quand ce « je » est pris pour une réalité, créent quelque chose dans notre expérience.
Et est-ce qu'on peut avoir de l'enthousiasme ou de la déception pour quelque chose qui s'est fait? Si on est conscient qu'il n'y a pas de choix, mais ça s'est fait, on peut quand même avoir de l'enthousiasme ou de la déception.
Bah, c'est pareil, ça va se dépenser que.
Pas forcément. Donc, c'est d'émotions, quoi.
Si, il peut y avoir plein toutes les émotions.
L'enthousiasme ou la déception, c'est pas un choix, c'est pas on est parti dessus, c'est juste. C'est comme ça.
Alors, ça dépend, alors attends. Après, il va falloir définir les choses. Si on parle d'enthousiasme, pour moi, c'est une émotion. Si on parle de déception, pour moi, c'est une forme aussi d'émotion. S'il y a de l'enthousiasme parce que quelque chose est arrivé, il y a l'idée que c'est super que ce soit arrivé. Il y a l'idée que c'est beaucoup mieux la vie avec ça. S'il y a une déception, il y a l'idée que la vie est moins bien avec cet événement, avec ce qui est arrivé. Si tu enlèves cette idée...
Je sais pas si c'est l'idée. Je sais pas si c'est l'idée.
On regarde. Si on enlève ces idées, qu'est-ce qui reste? Bien sûr, ça ne veut pas dire que le corps ne va pas se réjouir certaines fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enthousiasme naturel, ça ne veut pas dire qu'il y a toujours des pensées, c'est vrai. Comme on disait tout à l'heure, chaque organisme a des spécificités, et ces spécificités vont faire que tel organisme va sentir bien dans tel milieu, avec telle chose, et tel autre moins bien. Tout le monde n'est pas boulanger, et tout le monde n'est pas... n'importe quoi d'autre. C'est bien parce qu'il y a des affinités, il y a des différences, etc. Et évidemment que si un boulanger est obligé de faire de la boucherie, peut-être ça ne lui plaira pas du tout, et vice-versa. Et donc, là je parlais plus d'allant naturel, de mouvement naturel, de l'organisme vers. Et de même... on n'est pas tous attirés par la même personne, heureusement, Vous voyez ce que je veux dire ? Heureusement, quoi, il y a ces différences. Les organismes, c'est différent, et chaque organisme va être attiré par certaines choses. Et là, évidemment, que lorsque l'organisme est dans son milieu et il est dans, vers quelque chose qui correspond à sa nature, évidemment que l'organisme est détendu. On peut parler d'enthousiasme, c'est un peu fort, mais pourquoi pas à certains moments, oui. En tout cas, de détente, de bien-être, oui. Sans sentiment d'être à sa place, si on met des mots, des choses comme ça. Pour la déception, j'aurais tendance à dire qu'il y a toujours une pensée cruelle.
C'est la fracture, c'est l'échec,
il y a toujours l'idée que ce serait mieux autrement. Ouais. L'espoir que ce soit autrement. L'idée que ce serait mieux autrement, de toute façon, ça c'est toujours là. En réalité, on n'en sait rien. Et surtout, l'idée qu'il faudrait ça, telle et telle chose pour être heureux, ou l'idée que ce serait mieux si il n'y avait pas ci et pas ça, induit des choses, induit une expérience, et induit une recherche. Déjà, s'appuie sur un refus, il y a une idée de refus, mais en plus, induit, il faut que j'essaye d'avoir ça, il faut que je fasse comme ci et comme ça pour y arriver. Il faut que... C'est-à-dire, il y a des pensées qui vont apparaître, qui vont être crues, qui vont entraîner un mouvement, une recherche, etc. Sinon, vous ne soyez pas là ce soir. C'est-à-dire que, ou bien on répond à un allant, à un mouvement naturel qui va de soi, comme une maman prend soin de son bébé, un papa aussi, hein. Enfin, je dis on va dire ça répond à un mouvement à l'intérieur, ou bien ça répond à des idées, à des pensées crues.
Quand vous dites ça, ça correspond à quoi ?
L'organisme. Dans ce cas précis, je dirais l'organisme. Les mots trompent tout le temps, mais là je dirais l'organisme. En même temps, c'est la panique, c'est quelque chose qui arrive de soi-même. Hein. Oui. Il n'y a aucune critique dans tout ça, c'est juste ce qui arrive. Mais ce qui est important, c'est que tout cela est toujours constaté. Peut toujours être constaté. Quoi que ce soit qui arrive, quelles que soient les pensées crues, quelle que soit la souffrance que vous ressentez, quel que soit l'enthousiasme que vous pouvez éprouver, etc., tout cela peut être constaté. Et si vous regardez, cela qui le constate, comment est-ce ? Là, même pas en ce moment, vous entendez le son de ma voix, vous sentez le corps, vous entendez la clim, tout cela est constaté. Et cela qui le constate, comment est-ce ?
Comme toutes des cellules qui absorbent l'atmosphère et qui n'ont pas le droit de penser.
Oh, j'ai jamais dit ça.
C'est ça.
Enfin, j'ai jamais dit ça.
Pas le droit, mais qui pour, regarde les pensées passées.
Mais qui est le fond dont vous parlez ?
Non, alors on ne peut pas dire « je ».
Ce que vous voulez dire, ça vit sur l'idée « je suis l'organisme corps-mental ».
Je suis l'organisme.
Je suis cet organisme corps mental.
Voilà.
Est-ce que c'est vrai ?
Je suis cet organisme corps mental. Je suis un organisme avec une pensée.
Vous êtes un organisme avec une pensée.
Donc voilà. On m'a toujours dit de propre de l'homme, c'est la pensée. Et de marcher sur
ses deux pieds. C'est pas parce que Descartes a dit je pense donc je suis que c'est vrai. C'est ça. Dans les méditations métaphysiques, il a dit je suis, j'existe.
Ouais.
Ce qui est loin de je pense donc je suis.
C'est vrai.
J'existe.
Après, on dit aussi, je sais que c'est rien. Hein.
Mais, enlevez les concepts, toutes les idées à propos
c'est sûr.
De vous-même,
c'est
ce que vous êtes.
Vrai,
regardez tout à l'heure, quand je vous dis sans la mémoire, sans l'image, sans les pensées, Ressentez le corps.
Oui.
Ressentez. Non, laissez-vous simplement être avec ce qui est là. Eh ben, il y a une sensation d'espace avec des sensations à l'intérieur. Il n'y a pas l'idée d'un corps, il n'y a pas l'idée d'être un organisme. L'idée d'être un organisme, et si elle était inculquée?
Oui, mais bon, il a faim quand même, l'organisme.
Mais oui, et alors? Et alors?
Et ouais, non, mais c'est bien. Hein.
Et alors? L'organisme a soif, qu'est-ce qu'il fait?
Il boit.
L'organisme a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il mange.
Voilà.
Et voilà. Ça arrive, il n'y a pas besoin d'une pensée, il n'y a pas besoin de dire « Ah, il faut que j'aille boire, ah, il faut que je fasse attention à remplir le verre d'eau. » Non, ça se fait. Puis il n'y a pas de verre, on boit directement au robinet. Ça se fait.
C'est très, 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 très intérieur. C'est la toutes les cellules, quoi. C'est la mémoire cellulaire, presque.
Même pas besoin de savoir tout ça, c'est comme ça que ça se passe.
Voilà.
Il y a une connaissance naturelle. De comment ça fonctionne.
Oui,
on n'a pas besoin de vous apprendre comment saisir avec la main quand vous êtes un bébé. Un jour, ça saisit. Ça se fait.
Et quand ça ne se fait pas?
Ou bien il y a un gros handicap, ou bien il y a des pensées crues.
Voilà,
pourtant, un bébé, des pensées crues.
Oh, il y en a. Il y en a. Mais comment c'est quand vous êtes juste ceux-là qui constatent ce qui se passe là maintenant? Comment c'est? Vous savez que vous êtes conscient. Vous êtes conscient et vous savez que vous êtes conscient. Qu'est-ce que c'est qui sait que vous êtes conscient?
Le corps.
Le cerveau, moi je dis le cerveau.
La conscience.
Oubliez vos concepts. Le regard. Moi je parle beaucoup de regard, mais ça peut être l'écoute, ça peut être avec, ça peut être le constat, peu importe. Oubliez les concepts, oubliez les idées, oubliez tout ce que vous avez déjà appris. Poubelle, tout ça. Je veux du neuf, je veux un regard neuf, pur. Maintenant. Comme tout à l'heure pour le corps, si vous regardez simplement, ah, mais en fait, entre guillemets, j'ai pas de corps, il y a un espace au sein duquel apparaissent des sensations.
Celui qui observe.
Ah, et ceux-là qui observent, c'est comment? Voilà, on pourrait dire c'est l'espace. Il y a calme, pardon. C'est respiration. Paix. Et maintenant, dites-moi, ceux-là qui constatent, est-ce que ça apparaît, disparaît? Est-ce que c'était là hier ou pas? C'est toujours là. C'est toujours là. On n'en a pas tout le temps conscience, mais on sait que c'est toujours là. C'est incroyable comment c'est possible. Est-ce que c'est différent quand vous êtes malade ou en bonne santé? Quand vous êtes enthousiaste ou déçu? Quand vous êtes petit ou grand? J'oserais même dire, est-ce que c'est différent quand vous êtes un homme ou une femme? Est-ce que ça a l'idée d'un sexe? Non. Et on le sait. Comment ça se fait qu'on le sait? C'est tout le temps là. Et on sait que c'est tout le temps là. C'est indubitable. On n'a aucun doute là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous êtes le plus ? Les émotions qui vont et viennent, les pensées qui vont et viennent, les sensations qui vont et viennent, les amours qui vont et viennent, les déceptions qui vont et viennent, ou cela qui est tout le temps là ? Cela qui est tout le temps là. Et est-ce que cela qui est tout le temps là, c'est un organisme corps mental ? Est-ce que ça a l'idée d'être un organisme ?
C'est un état de fait.
C'est un état de fait. Qu'est-ce qui est ? C'est ce qu'on appelle l'être-té, le je suis. Je dis bien quand ça s'arrête, on ne se rend même pas compte que ça fait tellement de bruit. Hein, pourquoi il était tout le palais ce bruit ? Et tout d'un coup, on entend le silence. Alors, après, on peut changer le mot. Voyez, c'est ça qu'on va appeler dans notre langue, dans notre jargon, je suis. L'être-té, l'étance. Peu importe le mot, mettez si vous voulez. Est-ce que cet être-té a l'idée d'un moi ? Évidemment pas. C'est un petit peu comme la trame du film, vous savez, la trame de la pellicule. C'est tout le temps là. Il y a des images qui sont projetés, on ne voit que les images. On ne prête attention qu'aux images, d'une façon générale. On oublie qu'en fait, c'est la pellicule, et qu'il n'y en a qu'une. Et quelles que soient les images qui défilent, c'est toujours la même pellicule. Alors, Mme Marchi prend l'exemple de l'écran, c'est pareil. Il y a un écran au départ, et un écran à l'arrivée. Et puis on y passe tout le film qu'on veut dessus. L'écran, il est tout le temps là, et c'est toujours le même, il n'a jamais changé. Mais nous, on est attirés par les images. Et on oublie qu'il y a un écran. Puis quand le film s'arrête, on s'en va parce que l'écran blanc, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que cette être-té, elle n'est pas reconnue comme étant intéressante. On est beaucoup plus attirés par les images. C'est marrant ça. On est plus attiré par les expériences, par les émotions, les sensations, les perceptions, que par ce qui est tout le temps là. Et qui est pourtant tout le temps calme, et pourtant est tout le temps tranquille, donne une sensation d'espace, de bien-être. C'est dingue, non ? Maintenant, là, on va voir comment ça va être, mais là, c'est un peu plus difficile. Cet être-té, ce je suis, là, maintenant, vous la ressentez. Si vous revenez à cet être-té, cela qui constate, vous entendez le bruit de ma voix, vous êtes conscient d'entendre le bruit de ma voix, et vous savez que vous êtes conscient d'entendre le bruit de ma voix. C'est constaté. Ah oui, tiens, et cela qui constate, il est connu, il est indubitable. Qu'est-ce qui connaît cela qui constate ? Là, le mental est soufflé, ça y est, même pas trouvé une réponse à tout. Je pourrais le faire d'une autre manière. Je suis conscient. Je suis conscient d'être conscient. Qui est-ce qui est conscient du fait que je suis conscient d'être conscient ? Là aussi, le mental, il n'y a même pas. Il ne peut pas suivre.
C'est toujours celui qui observe.
Mais c'est je suis.
Et qu'est-ce que tu connais de lui ?
Parfois, on peut voir que quelqu'un, enfin, comme quelqu'un t'observe.
Qu'est-ce que tu connais de cet arrière-plan ? Qui connaît tout ce qui peut être connu. Rien. Et cependant, il est indubitable. Tu vois, là, c'est plus je suis, c'est ce qui est. Voilà. Je l'appellerai comme ça. On met des mots dessus. D'accord ? Je suis connu, ce qui est inconnaissable et indubitable. Il connaît tout ce qui peut être connu. Il ne peut pas être connu. S'il pouvait être connu, il ferait partie du connu. L'inconnaissable, l'innommable. Tu ne peux que l'être. C'est pour ça qu'on parle de scotcher aux choses, croire qu'on est cet organisme. Je suis, qui se passe de moi, de l'idée d'un moi, qui est être-té, et ce qui est, qui sait que tout ça est illusoire. Tout apparaît au sein de ce qui est, de ce que je suis et qui est. Et en même temps, il n'y a pas de séparation. Tout ça est un. Oui, ça se prend soin naturellement. Tout d'un coup, l'idée apparaît. Ah tiens, je lui ai proposé à boire. Je lui ai proposé à boire. Il n'y a rien de plus naturel. Il n'y a pas besoin d'avoir plein de concepts dans la tête de je ne sais pas quoi pour que ça se fasse. Ça se fait. Il devait s'engager seul le soir. On a souvent dans l'idée que s'il n'y a personne aux commandes, ça ne va pas le faire. C'est faux. On a l'idée que si je ne dirige pas ma vie, que si je ne contrôle pas certaines choses, alors ça va être terrible. Si on savait quand c'est plus calme après. Beaucoup plus amusant. Beaucoup plus tranquille.
Et c'est ce que tu appelles ce qui est, qui est aux commandes alors, c'est quoi?
Non,
nous, on n'a pas les commandes, mais il y a quand même des choix qui se font.
Ouais. Mais il n'y a pas besoin qu'il y ait un choix qui se fasse pour que la rivière coule. Elle coule. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un choix qui se fasse.
Mais on ne sait pas à droite ou à gauche.
Ça se fait. En fonction de la pente. Personne n'a décidé. Les choses apparaissent. Il n'y a personne au commandement. Je dis si, il n'y a personne aux commandes. Il n'y a jamais eu personne aux commandes. Il y a l'idée que je commande quelque chose, que je pilote.
Non, pas que je, quoi que ce soit, mais...
que la vie commande, que la vie incline... Je crois pas ça. Vous pouvez dire, j'en sais rien.
Ce vieil, il sert à quoi, alors?
Il n'a pas le but de servir à quoi que ce soit. Il n'est pas ce qui est être, point. Il se manifeste en tant que tout ce qui apparaît, tout ce qui peut être connu. Il n'a aucune idée de servir à quoi que ce soit. Le soleil n'a pas l'idée de faire pousser des plantes en brillant. Il n'y a pas besoin de ça. Ça se fait. L'idée que les choses ont besoin d'avoir un sens ou de servir à quelque chose provient aussi de l'idée qu'il y a un moi qui souffre et qu'il faut faire quelque chose et que puisque je souffre, c'est que ça doit bien avoir un sens. La volonté de comprendre. Les enfants qui construisent un château de table, de sable et le détruisent avant de quitter la plage, ne posent pas la question du sens. Un enfant qui s'amuse ne se pose pas la question du sens du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a juste pas de sens. On se la pose après. Après, on invente des jeux éducatifs. Et on oublie que c'est très éducatif de démolir un château de sable avant de quitter la plage. On se dit, mais pourquoi tu fais ça tout le temps qu'on a passé à le faire? L'impermanence des choses, les enfants la connaissent. Ils en jouent.
Face à l'inacceptable, alors.
Qu'est-ce qui pourrait bien être inacceptable?
Parce qu'on pense que c'est inacceptable, et donc oui. Déjà, je ne peux pas penser que c'est inacceptable.
J'entends pas bien ce que vous dites. Je ne peux pas bien
dire. Oui, inacceptable. Voilà.
Qu'est-ce qui est inacceptable?
Voilà, par rapport à ce que vous dites, inacceptable. Voilà.
Mais qu'est-ce qui est inacceptable?
La souffrance, la mort, la... je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui peut être inacceptable? La peur, la...
Tout cela est lié à des pensées.
D'accord.
La mort est inacceptable. Moi, je ne sais pas. Moi, je me souviens de la mort, ça ne m'a jamais vraiment traumatisé. Et les personnes que j'ai pu accompagner de l'autre côté, main dans la main, c'était toujours avec le sourire. Donc, me dire que la mort est inacceptable, non, pas pour moi, en tout cas. La souffrance, c'est à base de pensées crues. Ça ne peut pas être inacceptable, il suffit juste d'arrêter de croire à des bêtises. Elle existe, mais elle n'est pas. Elle est construite de toutes pièces. Un mirage existe, mais vous ne pourrez pas vous désaltérer à l'eau de l'oasis du mirage. Un film existe, mais il n'a rien de réel. Un rêve existe, le monde du rêve existe, mais ça n'a rien de réel.
Le corps, il y a mal, c'est tout. Oui.
Il y a une douleur, on parle de douleur, on ne parle pas de souffrance. Mais la douleur en elle-même, elle existe, mais le corps, ben, ça fatigue le corps. Mais il n'y a pas de souffrance. Ça peut même être très drôle.
Pas de souffrance.
Je parle de souffrance psycho-émotionnelle. De toute façon, la douleur n'est pas souffrante en elle-même. Vous avez donné un autre exemple?
L'avoir des enfants pendant la guerre, je sais pas moi, l'Holocauste, des trucs comme ça. Des trucs vraiment où on se demande où on peut, comment on peut se positionner et à quoi penser alors à ce moment-là.
Là, on parle de choses du passé qui ne sont pas là maintenant.
Bon, mais,
moi, je peux rien en faire.
C'était il y a longtemps,
par exemple.
C'était hier.
Je ne sais pas, je ne suis pas trop les infos en plus.
Voilà.
Mais,
c'est
pour moi, tout ça est toujours lié à des pensées crues.
Oui.
Des gens qui osent faire des choses comme ça, ils sont bouffés par leurs pensées. C'est des malades mentaux.
Mm-hmm. Oui, ça c'est sûr. Mais ça, c'est eux.
Malade mental, ça veut dire qu'ils croient leurs pensées. Mm-hmm.
Mais comment être dans cet état de plénitude que vous décrivez par rapport à cette image qui nous arrive?
Oui, parce que il y a confusion entre ce que je suis et ce qui apparaît au sein de ce que je suis. C'est-à-dire que je ne suis pas cet organisme. Cet organisme apparaît en ce que je suis. Ce qui arrive à cet organisme n'arrive pas à moi. Ça arrive en moi, en ce que je suis. Le moi s'est déplacé. L'idée d'un moi, ce n'est plus du tout la même. Il n'y a pas d'idée d'un moi. Mais moi, je me moi parce qu'on utilise des mots. Alors, c'est un petit peu. Je suis, on pourrait dire. À partir du moment où il y a identification à je suis toujours cette tranquillité, cet espace, ce calme, etc. Même si cet organisme a mal, même si cet organisme a peur, même si cet organisme est triste, même si cet organisme est en colère, même si cet organisme éprouve de l'enthousiasme ou je ne sais pas quoi d'autre, ce que je suis est tranquille.
Mais ces pensées donc d'enthousiasme, de peur, tout ça, elles sont là.
Elles peuvent apparaître, beaucoup moins qu'avant, et c'est toujours lié à des pensées crues. Et lorsque la pensée est vue pour ce qu'elle est, une pensée crue à tort, parce que rien ne prouve qu'elle est vraie, par exemple, elle s'effondre et l'émotion qu'elle crée s'effondre avec. C'est le regard. C'est un effet secondaire du regard. C'est pas ce qu'il recherchait. Mais à partir du moment où le changement de perspective s'est opéré et établi, une fois que c'est là, tout peut arriver. La peur, c'est amusant d'avoir peur. La tristesse, c'est doux. La colère, c'est fort. C'est bon. Ça change, parce qu'alors, il n'y a pas le jugement, il n'y a pas l'idée que ça ne devrait pas arriver ce qui s'est passé, que ce que je fais, c'est pas bien, que ce qui m'arrive, c'est pas bien. Tout ça s'effondre. Alors, ça devient libre, ça devient ouvert. Je suis beaucoup plus souvent ému aux larmes aujourd'hui qu'avant. C'est pas vide et froid et sans vie et je sais pas quoi. C'est beaucoup plus vivant. Tout peut être rencontré.
Voilà, c'est ça.
Parce que ça vient toujours, ça arrive toujours au sein de l'espace. Il n'y a pas un truc qui vient résister, qui vient dire non, ça j'en veux pas, non, ça c'est pas bien. Ça vient au sein de l'espace et ça traverse. Et c'est vécu pleinement. Et c'est libre. C'est la différence entre la croyance en « je suis cet organisme » corps mental. Dans la tradition du on parle toujours d'organisme corps mental. On ne met jamais les émotions parce que les émotions sont à 99,9% liées à des pensées crues. C'est la différence entre croire en la pensée « je suis l'organisme » doté d'un « moi » qui contrôle les choses, etc. et l'absence de cette croyance qui automatiquement nous rend à je suis dans un premier temps, à ce qui est dans un deuxième temps. Parfois tout se fait d'un coup, enfin ça dépend des gens et tout. C'est-à-dire que, d'une façon générale, il y a une tension permanente. Il y a l'idée que je suis, que moi, qu'il y a l'idée d'un moi, il y a l'idée d'être cet organisme, il y a l'idée de il me manque quelque chose, il y a l'idée d'une séparation. D'être séparé de moi-même, des autres, du monde, enfin, il y a une recherche. Tout ça, ça crée une tension corporelle aussi, pas seulement psychologique, corporelle. et ça se passe comme avec un élastique. Après, vous cherchez. Alors, vous cherchez. Comme vous cherchez, vous allez vouloir quelque chose. Vous mettez en place des stratégies pour. Et ça tire sur l'élastique. Mais l'être T est détente. Et ce qui se passe, c'est que quand tu dis « Ah non, 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 mais je cours après rien du tout, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas tout ça. » L'élastique se détend. Et automatiquement, sans aucun effort, vous revenez à ce que vous avez toujours été, parce que vous l'avez toujours été, ça a toujours été là. En fond. Autrement dit, il n'y a rien à faire. En ce sens-là, il n'y a rien à faire. Pour être, vous êtes déjà ce que vous êtes. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. C'est ça le sens de cette phrase. Donc, ce n'est pas la peine d'aller développer je ne sais pas quelle qualité pour atteindre je ne sais pas quoi. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. L'amour que vous cherchez, vous l'êtes. La paix que vous cherchez, vous l'êtes. Le bonheur que vous cherchez, vous l'êtes. Etc., etc., etc. Mais on est tellement focalisé, orienté vers ce que je cherche et vers l'idée que je dois faire quelque chose pour, qu'on ne voit pas ce que l'on est en réalité. Et pourtant, à tout instant, on peut se dire « Ah mais attends, mais tout ça je le constate. Mais qu'est-ce que c'est qu'il le constate? C'est comment ce qu'il le constate ? » Et paf, on sait bien, c'est l'espace tranquille, mon père. C'est su, c'est indubitablement. Et on sait très bien que qu'on peut appeler cet espace tranquille et ouvert pour mettre des mots dessus, ça ne cherche rien. Ça n'a besoin de rien, il n'y a pas l'idée d'un manque. Il n'y a pas l'idée d'un besoin de chercher. Il n'y a pas l'idée d'une responsabilité si jamais je. Il n'y a pas l'idée d'un je. En réalité, que vous en soyez conscient ou non, vous l'êtes. Que vous en soyez conscient ou non à l'instant T, vous l'êtes. La preuve, c'est quand vous regardez, vous dites « Ah oui, ça a toujours été là. » Vous l'êtes. Vous ne pouvez pas ne pas l'être. Essayez d'arrêter d'être un instant. On peut pas. On peut pas. On sait qu'on est. Et on sait qu'on ne peut pas ne pas être. Mais on oublie, on ne s'en préoccupe pas, on est intéressé par d'autres choses, on court après autre chose. On est mené par le bout du nez, par nos pensées crues.
Et comment il faut faire pour ne pas penser cru?
Mais qui pourrait bien faire quelque chose puisqu'il n'y a pas de moi? Tu vois le piège? Tout de suite, le mental va essayer de récupérer ça, dire « Ah, alors maintenant j'ai compris, il y a des pensées crues, c'est ça qui me fait souffrir, donc il faut tuer les pensées crues. » Plus de pensées crues. Bah, arrête de croire à tout ce qui peut apparaître. Mais tu ne peux pas. C'est même pas la peine d'essayer, tu sais que tu ne peux pas. Les pensées, elles sont crues ou elles ne sont pas crues. Mais ceux-là qui constatent qu'il y a des pensées qui sont crues, il n'est pas affecté par les pensées crues. Tu es aussi dans l'idée que s'il n'y avait pas de pensées crues, je serais heureuse. Ben oui, si. En plus, je dis que toutes les souffrances sont liées à des pensées crues. Alors, heureusement que vous avez cette idée-là dans la tête. Évidemment, s'il n'y avait pas de pensées crues, on serait heureux. Mais ce n'est pas les pensées crues qui sont le problème. C'est l'oubli de notre nature. C'est faire l'impasse sur notre source qu'on est.
Non, on n'a pas été sur l'impasse. Je suis en train de penser crues.
Comme vous dites, on serait heureusement.
Tu es bonheur même.
Mais on n'aurait pas de sensation d'être heureux ou pas.
Que tu en sois consciente ou non, tu es le bonheur même.
Mais pourquoi? Pourquoi on serait le bonheur même?
Pour moi, c'est une évidence. Comme là où il y a une poutre, c'est une évidence. Pour moi, c'est la même raison.
Oui, bonheur, encore une fois, c'est un terme, encore une émotion.
Parce qu'on met des mots dessus. Non. Un bonheur qui ne connaît pas de contraire.
Ah, voilà.
Oui, quand je dis vous êtes l'amour même, vous êtes la paix même, le calme même, le bonheur même, je parle qu'il n'y a pas de contraire à ça. Mm. C'est votre nature. Ta nature, c'est le bonheur. Tu es le bonheur même, c'est ta nature. Tu ne peux pas ne pas être le bonheur. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas être malheureuse ou être heureuse. Mais tu es le bonheur au sein duquel apparaissent bonheur et malheur du monde de la dualité habituelle, de l'expérience. Et ce que tu es, cela qui constate que tu es malheureuse, n'est pas malheureuse quand tu es malheureuse. Et n'est pas plus heureux quand tu es heureuse. Enfin, encore ça, un petit peu, ça, il y a des teintes. Tu vois, ça apparaît au sein de cela qui constate, au sein de ce calme espace ouvert. Mais nous, on s'accroche à l'expérience. Au lieu de s'accrocher à ce en quoi l'expérience apparaît. S'accrocher, c'est pas un bon mot. De revenir à, d'être avec cela qui constate.
Est-ce que ça qui est a une influence sur ce que je suis?
Dans quel sens influence?
Une influence.
Il n'y a aucune intention.
Pardon? Une intention encourageante?
Non, il n'y a aucune intention de rire de quoi que ce soit d'une part. Tout arrive de soi-même. Comme. C'est une explosion. Il y a. Ce qui est se manifeste de façon spontanée et sans aucune intention en tant que tout ce qui apparaît. Je suis l'univers, le monde, les expériences, tout. Et c'est pas séparé de ce qui est, c'est ce qui est lui-même sous sa forme manifestée.
Un rocher dans la rivière, par exemple. Enfin, ce rocher, on a entre guillemets permettre mort, mais ce qui est, hein, quoi, vous dites, ce qui est, entre guillemets un être mort, et que toutes ces images sur la pellicule le rendent vivant, en fait. Puisque ce qui est.
Non.
Quoi, vous voyez,
ce qui est la vie même.
Oui, c'est une vie, mais qui a besoin de ces images aussi.
Non. Il n'y a pas l'idée de besoin.
Non plus, ouais.
C'est une apparition. C'est une merveille.
Il
n'y a aucun besoin.
Non.
C'est spontané. Ouais. Le soleil n'a pas besoin de briller. La rivière n'a pas besoin de couler. Ça se fait. La manifestation apparaît. Ce qui est se manifeste, ça se fait. Tel que vous. N'en faites pas une connaissance, une idée, ou je sais pas quoi. Ne croyez pas tout ce que je vous dis sur parole. Regardez par vous-même. Vu d'ici, tout apparaît comme ça spontanément. Hors temps. Le temps aussi apparaît, l'espace apparaît. C'est comme un rêve. C'est un rêve. Cet univers est un rêve. Quand, au moment où le rêve commence, l'univers du rêve apparaît d'un coup. Il n'y a pas un petit bout du rêve qui apparaît et puis le décor qui se met en place petit à petit. C'est tout d'un coup. Et quand le rêve se termine, l'univers du rêve s'effondre d'un coup. Au moment du réveil. Tout d'un coup, ça s'arrête. Ça commence d'un coup, ça s'arrête d'un coup. Il ne faut pas tant pour que l'univers du rêve se crée, ni pour qu'il se décrète. Et c'est pareil pour ça, en fait. L'univers entier, l'espace-temps entier apparaissent d'un coup et disparaissent d'un coup. Et en réalité, c'est hors temps. Il n'y a pas de temps. C'est une illusion. Ça, c'est encore une autre histoire. Ne croyez pas sur parole.
Et il continue d'exister aussi.
Oui, et non, c'est la même chose. Tous les mots sont trop, tous les mots vont tromper.
Oui, pour tous ceux qui y croient, il continue d'exister.
Bien évidemment. D'un point de vue existentiel, on ne peut pas douter des relations de cause et d'effet et de l'existence du temps et de l'espace. Ce n'est pas parce qu'on sait que tout est illusoire qu'on rentre dans les arbres. Hein. On en fait le tour, donc on se promène en forêt. Vous comprenez, la réalité existentielle est quand même ce qu'elle est. Et dans un rêve, vous comportez généralement aussi d'une façon relativement sensée. Ça apparaît. Je ne cherche pas à expliquer, je ne cherche pas à faire de relations de cause et d'effet. Non pas qu'il n'y en a pas qui se font, de temps en temps il y en a qui se font spontanément, mais je ne cherche sûrement pas à expliquer. Enfin, oui, c'est bête aussi ce que je dis. Mais pour répondre à ta question, je dirais ça. Et d'un côté, on peut dire rien n'a de sens, puisque tout est illusoire. Donc quel sens ça pourrait bien avoir? Et tout a un sens d'un point de vue existentiel. Et j'aime beaucoup le proverbe soufi qui dit « Le diable ne sait pas pour qui il travaille ». Sous-entendu pour Dieu. Dans la tradition hindoue, on dit le karma sert le dharma. Et le karma, c'est l'acte. Vous jetez une pierre dans l'eau, ça fait plouf et ça fait des ronds. C'est ça le karma. Action, réaction. Action, réaction. Sert le dharma, la voie juste. Et en réalité, les deux sont illusoires. Parce que tout ça est illusoire, il n'y a pas de temps. Le temps est illusoire. Donc l'idée d'une relation de cause à effet, donc d'un karma, tout ça, est illusoire. L'idée d'une voie est illusoire, d'un point de vue ultime. D'un point de vue existentiel, évidemment, c'est réel. Donc c'est pas un blanc-seing pour faire tout et n'importe quoi. De toute façon, d'une façon générale, une fois qu'il s'est réalisé qu'il n'y a pas de moi, j'en sais trop rien, mais dans ce que je vois, on est beaucoup plus au service de ce qui se présente. D'accord. De nouveau, le mouvement naturel réapparaît. Et naturellement, on prend soin les uns des autres. Regardez les animaux. C'est naturel.
Le début, c'est pas décevant.
Oh mon Dieu. C'est juste l'inverse, c'est complètement plein, c'est l'inverse. C'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus plein, tout est pleinement vécu, tout peut être rencontré directement, tout. La peur est la bienvenue, la tristesse est la bienvenue, la colère est la bienvenue, tout est bienvenu. Ça n'est pas ce que je suis, c'est ce qui apparaît en moi. La douleur est bienvenue aussi. Pas croire, hein. arrivé plus d'une fois d'avoir mal, très mal, et puis de rire. Parce que la douleur est une telle expérience incroyablement étonnante, merveilleuse et amusante, que ça fait rire.
Vous n'avez jamais accouché.
Pour avoir travaillé en salle d'accouchement un certain temps et avoir eu du douleur au moins aussi forte que celle de l'accouchement, je peux dire qu'il n'y a pas de problème. Sincèrement, des douleurs très fortes peuvent être, une fois que lorsque les pensées crues sont effondrées, lorsque l'histoire s'effondre, la douleur n'est jamais souffrante. Elle peut être amusante. Même des douleurs très fortes qui durent.
Mais naturellement, on a mal.
La douleur demeure. Et le corps est fatigué par la douleur. Il y a des moments où la douleur peut complètement disparaître, parce que la douleur, c'est juste en fait quoi? C'est juste des influx nerveux, c'est-à-dire des courants électriques interprétés comme douleur. Lorsque le lien est rompu, il n'y a plus de douleur. Lorsqu'il est vu, clairement vu, que ce ne sont que des impulsions électriques, la douleur disparaît. Et ça, c'est encore autre chose, qui arrive très rarement et à peu de gens. Ça m'est déjà arrivé. Mais des douleurs très fortes, très fortes, hein, peuvent très bien être amusantes, étonnantes, merveilleuses. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on, l'idée qu'on s'en fait.
Moi, c'est l'idée qui me dérange, parce que là, c'est pas l'idée du tout. Hein.
Mais le corps a mal, évidemment, le corps a mal. Je ne dis pas le contraire. Je dis que ce n'est pas souffrant. C'est pas la même chose.
Non, je pensais que vous disiez que c'était une idée. En fait, non, c'est une réalité.
Oui. La douleur est une réalité existentielle.
Mais c'est toujours la cristallisation qui engendre la souffrance. C'est la cristallisation de l'idée de la souffrance qui va engendrer la souffrance. On regarde avec l'hypnose, on arrive à souffrir.
Oui. La douleur est là. Voilà. Et même parfois la douleur peut ne pas être sentie.
D'ailleurs, souvent les enfants, ils ont mal à partir du moment où ils s'aperçoivent qu'ils saignent.
Ou bien qu'on les regarde.
Ou qu'on en fait nous une histoire. Alors ils en font une histoire aussi.
Voilà. Jusqu'à ce
qu'ils ils peuvent très bien avoir mal. Un enfant qui tombe, il a mal, il pleure, il va se réfugier dans les bras de papa ou maman, il pleure un coup, et trois minutes après, il retourne jouer comme s'il n'était rien passé. Il n'en a pas fait une histoire. Tandis qu'après, on en fait une histoire, là, j'ai eu mal, et puis si tu savais comme c'était terrible, on a enfin quelque chose à raconter. Voilà, on dramatise. Et au moment où on a mal, il y a toute une histoire qui vient se mettre en place comme ça, tac, d'un coup. Et c'est encore en moi que ça arrive. Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Et il n'y a personne pour s'occuper de moi. Et, pauvre de moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein? On connaît tout ça. Hein? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je connais. Voilà. Et lorsque tout ça est vu comme une histoire qui se raconte en boucle et qui apparaît d'un coup sortie de nulle part et sans aucune racine, mais qui couvre en plus vous crée de la souffrance, et puis que c'est vu comme étant irréel, comme étant juste une apparition, puis que ça s'effondre parce que c'est vu comme étant sans substrat, sans cause, qu'est-ce qui reste? Rien, mais il reste la douleur. Éventuellement. Et à ce moment-là, il y a juste l'expérience de la douleur. Et comme la peur peut faire très peur et qu'on peut s'enfuir en partant, en courant, la peur peut être aussi très amusante. Et la douleur, c'est pareil. On peut refuser la douleur, et dès qu'on la refuse, ça fait mal et on souffre. Ça fait encore plus mal et on souffre. Parce que le refus, c'est déjà de la souffrance. Ou ne pas avoir d'histoire autour de la douleur, et c'est une simple expérience, qui peut être amusante. Je ne dis pas que c'est tout le temps, mais qui peut être amusante. Comme tout le reste. Mais pareil, ne croyez pas sur parole. Laissez la porte ouverte à la possibilité que ce soit vrai. En fait, c'est tout. Ah. parle de ça plus en détail dans le bouquin qui s'est laissé écrire il y a un petit moment là. Je n'en ai même pas apporté. Yeah. On peut s'arranger s'il y en a qui veulent pour qu'on les dépose ici un jour ou je sais pas quoi. Ça s'appelle Regarder ce qui est. Trois points de suspension, un peu petit et sourire. Ça n'est même pas apparu l'esprit d'en apporter. C'est incroyable.
Ça veut dire que la responsabilité, la culpabilité, toutes ces choses-là n'ont pas lieu d'être.
C'est du concept. Ce qui ne veut pas dire que vous étiez responsable, ce serait aussi un concept.
Ce qui est n'a pas de mémoire en plus. Ce qui est encore n'a pas de mémoire en plus, ne pas avoir d'émotion. C'est ça que vous dites. Est-ce que ce qui est.
Tout est ce qui est.
Oui.
La mémoire est ce qui est aussi. Oui. Ce qui est en tant que non manifesté.
N'a pas de mémoire.
On n'en sait rien. On ne sait pas.
C'est pas si il y a de
mémoire. Interconnaissable. Je dirais sans mémoire. La mémoire est une apparition au sein de la conscience, au sein de cette existence.
Une comparaison animale, vous avez quoi ?
Non, rien à voir. Mais les animaux ont une mémoire.
Mais c'est pour ça.
Les animaux sont une apparition au sein de ce qui est.
Nous aussi.
Exact. Ah bon ?
La matrice.
Ouais.
C'est ça en fait.
Mais après, ça dépend de quel niveau on parle. Il y a vraiment... C'est subtil, toi. À un moment donné, c'est la matrice qui ne se connaît pas d'elle-même. En tant que non manifesté, ça ne peut pas se connaître soi-même.
Et les uns les autres, alors.
Des apparitions au sein de la conscience, au sein d'un même tout, non séparés. Non séparés les uns des autres et non séparés de ce qui est. Tu es cela au sein duquel tout apparaît. Tout. Pas seulement l'organisme que tu crois être. Tu crois être cet organisme. En réalité, tu n'es pas cet organisme. Enfin, cet organisme est aussi toi. Mais c'est un milliardaire, des milliardaires de ce que tu es. Tu es cela. Ce qui est. Qui se prend au lui-dit. Comment tu t'appelles, un tel, qui se prend pour un tel, à cet endroit précis de la toile. Et pour ce qui est, que tu te prennes pour ce corps ou pas, aucune espèce d'importance. C'est ce qui arrive. Ça ne change rien à ce que je suis, ce qui est. Quand vous vous réveillez du rêve, le matin de veille, même si vous avez tué quelqu'un dans le rêve, vous n'allez pas vous dénoncer à la police. Vous savez que ça n'est pas la réalité. L'identification à l'organisme n'a pas de réalité. Du point de vue de ce qui est. C'est juste une expérience, une apparition, c'est ce qui arrive. Totalement libre de ça. Un changement de regard, c'est un changement de perspective. Oui. Mais pareil, ne croyez pas sur parole.
Ce changement de perspective dans la vie courante se manifeste comment ? Bon, on a des acquis millénaires quand même.
Ah, les factures continuent à être payées, etc. On continue à boire de l'eau. Tout arrive de soi-même. En réalité, tout est toujours arrivé de soi-même. Ça ne change pas. On arrête de croire au Père Noël, mais il y a encore des cadeaux sous le sapin.
Ça peut paraître décourageant de dire que rien ne change.
Sauf que c'est oui, d'un côté, mais tout continue comme avant, et l'absence de toutes ces croyances, c'est la liberté même.
C'est sûr que ceux qui avaient un ego surdimensionné, ils sont déçus.
Non. Parce que l'ego s'étant effondré, enfin, une grande partie de l'ego s'étant effondré, ils peuvent juste dire « Là, mais comment, pourquoi j'ai fait ça ? Ça fait juste pas de sens et rigoler. » Non. D'une façon générale, on pense, si on emploie le mot éveil ou la réalisation, on croit que l'éveil, la réalisation vont être accompagnés de une béatitude permanente, un état de sérénité permanent, un amour absolu permanent, comme dans les grandes expériences mystiques. Je sais, j'en ai fait plus d'une. C'est faux. Ça, c'est faux. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus en profondeur. C'est ce que je suis. Ce n'est pas une expérience de ce que je suis, c'est ce que je suis. L'expérience mystique, c'est une expérience. Je fais l'expérience de l'amour inconditionnel, de la paix, de la béatitude, etc. Ça, c'est l'expérience mystique. Lorsqu'on est rendu à soi-même, que l'on en fasse l'expérience ou pas, n'a absolument aucune importance. Toute expérience est bonne, peu importe laquelle. Je suis ce que je suis. Je suis le bonheur même, je suis la paix même, je suis l'amour même, je suis la paix même. J'ai pas besoin d'en faire l'expérience. Et je peux faire l'expérience de la douleur, de la tristesse, de la colère. Ça ne change rien au fait que je suis ce que je suis.
Ça ne change rien, mais par exemple, quand vous dites « je suis ce que je recherche », je le recherche, il y avait une raison pour laquelle je recherche. Je recherche pour que ce que je suis soit révélé. Sinon, la vie n'a pas grand sens.
Parce que tu crois que ça a besoin d'être révélé. Mais tu l'es déjà.
Oui, parce que tous les êtres, même si on est, je veux dire, quelle nécessité de vivre si on n'est pas dans cette quête d'avoir cette révélation pour
Il n'y a aucune nécessité de vivre, il n'y a aucune nécessité d'entrer dans cette quête.
Mais pourtant, tout le monde est en quête, est en recherche.
Et, oui.
Je veux dire, on est fait de ça.
Sauf que lorsqu'il est réalisé que tu es ce que tu cherchais, mais pas dans le sens de « je suis le bonheur », c'est, je suis ce que je cherche, c'est tout ce que vous cherchez, vous l'êtes déjà. C'est ça que je veux dire, c'est autre chose. Hein. Oui. Lorsqu'il est réalisé que tu es ce que tu cherchais.
Est-ce que ça arrive, ça?
Bien sûr que ça arrive.
On arrive à savoir un moment qu'on est ce qu'on est.
Ah oui, ça c'est su indubitablement. Comme un au milieu de la figure.
Moi, je trouve que c'est infini quand même, l'être est infini.
L'être est infini.
Donc on ne peut pas savoir qui on est. Je pense que.
Attends.
Voilà.
De quoi tu me parles? Si tu me parles du je suis, si tu me parles de amour, paix, joie, bonheur, etc., bien sûr que si. À un moment donné, c'est su. Si tu me parles de croire être un organisme corps mental, croire être moi dans le monde, ou que ça s'arrête, ça c'est su indubitablement une fois pour toutes. Sans aucun doute, ça ne peut pas revenir en arrière. Quand tu as arrêté de croire au Père Noël, tu as arrêté d'y croire, c'est pour toujours. Tu vois? Tu te brûles une fois. Sur quelque chose de chaud, tu sais ce que ça veut dire chaud. C'est définitif.
Ça, c'est
des expériences. Oui, sauf que là, c'est pas une expérience. C'est pas une expérience. C'est l'arrêt d'une croyance. Quand tu arrêtes de croire à quelque chose, tu arrêtes d'y croire. Une fois que tu as vu que la croyance était fausse, c'est su une fois pour toutes. Et automatiquement, quand on arrête de croire à l'idée d'un moi, ce n'est qu'une idée, ça n'a pas de réalité, automatiquement, l'élastique se détend. Automatiquement, on devient ce « je suis ». Automatiquement, même s'il n'y a pas la conscience tout de suite qu'on est cet amour, cette paix, cette joie, parce qu'on n'a pas le concept. Tu vois, par exemple, nous le sommes et nous le savons. Et c'est, moi je me suis rendu compte, je dis ça parce que je me suis rendu compte en parlant avec des gens comme vous, qu'ils aimaient, ils me posaient des questions, ils me disaient des trucs, puis le premier ça a été l'unité. Ils disaient alors ça y est, tu vis l'unité? Ça réfléchit, tu vois. Non. Puis, alors tu te sens séparé? Non alors. Ça, c'était une évidence, par contre. Mais l'unité, c'est quoi? Aujourd'hui, je sais. Maintenant, je peux dire, oui, je suis l'unité même. Tu peux mettre le mot que tu veux, peu importe. Et puis, c'est plus que ça. C'est que c'est une réalité. Simplement, il n'y a pas l'idée unité. Donc, tant qu'il n'y a pas l'idée unité là-haut, ça ne peut pas dire « je suis l'unité ». Il faut retrouver l'idée, le concept unité pour pouvoir dire « je suis l'unité ». Ou pareil pour le bonheur et tout le reste, tu vois. C'est pas une expérience d'unité, une expérience d'amour inconditionnel. Ça peut le faire. Mais c'est ce que je suis. C'est ce que vous êtes, ce que vous avez toujours été. Quand vous regardez cela qui constate, vous le sentez, c'est ce que vous êtes. Et c'est tranquille. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour être tranquille. Et c'est aussi amour, paix, joie, etc. Sauf que c'est un peu plus délicat à percevoir. Oui, à percevoir, parce que c'est une perception. C'est un après-coup. C'est un après-coup. Mais surtout, comme ça ne croit plus à la plupart des choses que se racontait ce mental, qui se racontait là-haut, c'est beaucoup plus joyeux. Puis même si tout d'un coup ça croit une pensée, puis il y a une colère qui émerge, tout d'un coup le regard se pose dessus. Je suis le regard. Ce n'est pas une stratégie de mettre en place ce regard, je suis ce regard. À ce moment-là, le regard se pose dessus, tiens, c'est quoi ça? Ah tiens, ça se met en colère, ça c'est bizarre. Ah tiens, c'est marrant d'être en colère. Ça fait de la force et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, ça sait qu'il y a de la colère. Ah, ça croit telle pensée, la pensée est vue, c'est cru. Ah, c'est marrant que ça croit ça, c'est complètement sans, ça n'a pas de sens, pouf, ça c'est bon, fini. 3 secondes. Pareil pour le reste, généralement c'est 3 secondes. C'est Ramaj Belsekar qui racontait, il a perdu l'un de ses enfants. Il disait pendant quelques mois, à certains moments venait une bouffée de tristesse, une larme, et ça partait. Et c'est exactement ça. Mais c'est pleinement vécu, la tristesse est pleinement vécue. Mais tout ce qui est vraiment rencontré directement ne dure pas plus de 3 secondes. Si ça dure plus de 3 secondes, c'est qu'il y a une accroche, il y a une pensée. En ce sens-là, c'est très désirable. Mais surtout, j'insiste, d'une façon générale, on a tendance à croire que l'éveil, c'est, ça va être caractérisé par telle et telle et telle et telle chose, que ça y est, ça va être comme ça tout le temps. Non, c'est faux. Ça, c'est faux. Tout le monde le dit, il n'y a pas que moi. Il y en a plein qui le disent. Plein. Et ça peut arriver, mais après coup. Il y a aussi l'idée que le jour où j'aurai réalisé, alors il n'y aura plus d'ego, il n'y aura plus de pensée crue, il n'y aura plus. C'est faux. Ce qui s'effondre ce jour-là, bon, en fait, si je dois tirer les choses, les catégoriser, je dirais qu'il y a deux éveils. Le premier, c'est la sensation de la pensée moi. On arrête de croire à l'idée d'un moi. Et le second, c'est qui est donc réaliser que je suis. Et le second, c'est réaliser que ce monde est illusoire, c'est être aspiré au sein de ce qui est, être ce qui est. Je parle d'une façon générale que du premier, parce que c'est le plus fréquent. C'est à la portée de tout le monde. Et ça offre vraiment l'opportunité de la fin de toute souffrance. Non pas la fin de toute souffrance, mais l'opportunité de la fin de toute souffrance. On a l'idée qu'avec l'éveil, l'ego entier va s'effondrer. Non, ce qui s'effondre, c'est uniquement l'idée d'un moi. C'est pas grand-chose, hein ? Non, c'est juste une pensée. C'est juste arrêter de croire à une pensée. Vous voulez me faire croire que c'est hors, que c'est impossible, mais c'est faux.
C'est pas impossible.
C'est hyper facile. C'est Ramana Maharshi qui disait, c'est tellement simple. Mais oui, pendant des semaines, moi, après que ça se soit produit, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour parler plus tôt? Mais c'est à se tirer une balle, tellement c'est évident. Une fois qu'on l'a vu, mais comment j'ai fait, quoi? On n'arrive pas à croire qu'on a pu croire à un moi. Arrêtez de penser que c'est difficile.
C'est facile si on pense aussi. C'est une pensée. Hein.
J'ai dit arrêtez de croire que c'est difficile. J'ai pas dit croyez que c'est facile.
T'as dit c'est simple.
Oui, c'est simple. Ça veut pas dire croire que c'est simple.
Mais qu'est-ce que vous avez fait
dans le monde? Oui, mais est-ce qu'il y a eu un effet déclencheur?
Oui. Dans mon cas, il y a un effet franchi, il y a quelque chose.
C'est la même chose. C'est qu'est-ce que vous avez fait le lendemain ou alors vous avez fait le jour, à ce moment-là vous
À ce moment-ci, j'étais en train de. En fait, pour moi, c'est un petit peu chacun a son parcours personnel.
Oui.
Ne vous appuyez pas sur ce qu'un tel ou un tel a vécu. Ouvrez plutôt des portes avec sa vie. Ah tiens, ça peut se produire de plein de manières différentes.
Oui,
et votre façon de vous éveiller, ce sera la vôtre et celle de l'autre. Pareil. C'est comme ça. Moi, en fait, si j'avais pas cru plein de choses à propos de ce qu'était l'éveil, ça se serait produit des années plus tôt. Mais moi, je croyais que l'éveil était signé par l'absence d'ego. Alors, je vais définir l'idée d'un moi, et puis toutes les autres pensées crues. L'idée d'un moi, c'est cette croyance-là qui s'effondre et qui crée un éveil définitif, et qui change beaucoup, beaucoup les choses, qui offre l'opportunité de la fin de toute souffrance. Et toutes les autres pensées crues, c'est ce que je vais appeler l'ego. Et là, il y en a certaines qui s'effondrent toutes seules, qu'on voit même pas s'effondrer, des fois. Et puis il y en a d'autres, ça continue à tourner, pourquoi ça s'arrêterait? Mais par contre, ce qui se passe, je reviendrai à ta question, ce qui se passe, c'est que lorsque je dis, oh là là, j'ai fait une bêtise, si on croit en l'idée d'un moi, il y a un je qui a fait une bêtise. Il y a deux pensées, la pensée moi et la pensée bêtise. Qu'elle soit vraie ou fausse, que la seconde soit vraie ou fausse, on s'en moque. Elles se tiennent la main. Et donc, je suis responsable, voire coupable, etc. Et j'aurais pas dû, il faudrait que, etc. Il y a tout un discours qui va se mettre en place autour de ça. Enlevez l'idée d'un moi, il reste bêtise. Une bêtise s'est produite. C'est beaucoup moins dramatique. D'accord ? Et fais ça pour tout. Il m'a blessé. Lui, ce moi-là, a fait quelque chose de mal. Il n'aurait pas dû. Ça se fait pas. Toute l'histoire qu'on peut se raconter. Enlevez l'idée qu'il y a un moi qui a fait ça. Il peut même le blesser parce qu'il n'a rien eu aucune intention. Et si en plus, vous, il n'y a pas l'idée que je suis blessé, et c'est moi, moi qui suis un tel et un tel et qui vit ça ici, et qui sait que moi je suis comme ça et qui ne devrait pas faire parce que moi, s'il n'y a pas ça. Et comme ça, il y a plein de choses déjà qui dégagent, qui s'effondrent. Et après, il y a l'idée bêtise, ou l'idée blessée, ou l'idée refus, ou l'idée... Mais celle-ci, elle colle plus pareil, puisqu'il n'y a pas l'idée d'un moi pour les maintenir. Alors ça apparaît, ah tiens, colère, ah tiens, tristesse, ah tiens, blessure, ah tiens, oh tiens, c'est marrant ça. Et ça, c'est pas approprié. Donc c'est beaucoup plus facile à voir pour ce que c'est, une pensée crue, ça s'effondre beaucoup plus facilement. Mais c'est un après-coup. C'est après. Il y a un sage hindou qui a dit, mais malheureusement j'oubliais son nom, avant l'éveil, on est sur la voie vers la voie. Après l'éveil, on est sur la voie. L'éveil, c'est pas une fin, c'est un commencement. Alors pour répondre à la question, bon, moi je disais, ce serait pour du beaucoup plus tôt, parce que j'attendais tellement de choses de l'éveil que forcément, il n'y avait pas l'éveil, puisqu'il n'y avait pas tous les signes que j'en attendais. Et c'est en causant, en chattant par internet avec quelqu'un, qui m'a dit, mais tu crois que c'est quoi l'éveil? Je dis, bah c'est ça, ça et ça et ça. Qu'est-ce que t'en sais? Ah mince! C'est juste une croyance, j'en sais rien en réalité. Terminé, circulaire, rien à voir. Ça s'est effondré. Ah ben oui, je sais pas. Et à ce moment-là, si tu veux, en lâchant toutes les croyances au bout de l'éveil, comme si tu étais déjà vu qu'il n'y en avait pas, moi. Ben, c'est tout, quoi, ça s'est fait. Mais c'est très spécifique pour chacun. Parfois, c'est un mot, une phrase, qui fait tout d'un coup, ça clash, ça fait, c'est entendu. Malheureusement, pas l'exemple qui me revient en tête. Mais, et puis, croyez pas, c'est rare. C'est très fréquent. Beaucoup plus qu'on le croit. La plupart des gens n'en parlent jamais. En plus.
Les gens sont conscients quand même.
Ah oui. Mais il y en a, ils n'ont même pas les mots pour le dire, parce que ça s'est produit quand ils étaient tellement jeunes, ils ne connaissaient rien de tout ça. Donc. Voilà.
Ils peuvent être dangereux en société, ces gens.
Non.
S'ils n'ont pas de pensée crue. C'est-à-dire que pour eux, l'action qu'ils peuvent avoir peut être pour eux quelque chose de... C'est pas eux, puisque c'est pas eux. Vous voyez ce que je veux dire?
Regarde. Dans quel cas est-ce que tu as eu un comportement, vous avez eu un jour eu un comportement pas très propre, disons, un peu sauvage, un peu vengeur, un peu agressif, un peu, etc. Dans quel cas est-ce qu'on ne s'est pas bien comporté?
En volant, en conduisant.
Oui.
Quand on croyait un
mot. Ah bon?
Au moment où on croit un mot.
Quand on croit à quelque chose, mais pas forcément à moi. Quand on se justifie, quand on croit avoir raison, quand on croit qu'on souffre, quand on croit, tu vois, si tu regardes, on n'est pas naturellement méchant ou agressif. Sauf, je veux dire, il y a aussi des fois des trucs qui se passent pas bien dans la tête, il est vraiment malade, je veux dire, il y a des... Les circuits qui ne fonctionnent pas, les neurotransmetteurs qui ne fonctionnent pas, ça peut entraîner des paranoïas, des violences, etc. Ouais. Mais hors d'un contexte maladif corporel, on n'est pas naturellement agressif, méchant, vengeur, etc. Il faut avoir l'impression d'avoir souffert. Mais si il n'y a pas l'idée d'un moi, et qu'il n'y a pas l'idée « je souffre » et c'est la faute d'un autre moi, comme il n'y a pas d'autre moi, tout ça s'effondre, c'est juste pas possible. Il n'y a pas l'idée de devoir préserver cette intégrité physique. L'instinct de survie demeure, bien évidemment. Ouais. Mais il n'y a pas l'idée, il faut que je sais pas quoi, moi, que je fasse aider telle chose pour survivre dans le monde, parce que sinon, ça va être dramatique, et il faut qu'un tel ou un tel reste avec moi, parce que sinon, je vais tellement souffrir, ou je sais pas quoi, tout ça, ça tient pas. Donc, c'est juste beaucoup, beaucoup plus vite. Il n'y a pas l'idée d'un manque. Il n'y a pas l'idée de séparation, donc il n'y a rien à combler. La recherche s'effondre. C'est un bon signe. Il n'y a plus de recherche.
Là, je vous entends, et en fait, quelque chose résonne. Bon, c'est sûr, je vais dire en moi.
Oui. Bien sûr, on va continuer à dire en moi.
Voilà, que l'amour, en fait, nous met sur la voie. Puisque par amour, on fait. Voilà, on est simple. On est dans l'état que vous décrivez.
Mais sauf que c'est pas un état. C'est dans l'autre sens. Parce que toi, tu vas dire l'amour me met sur la voie. L'expérience de l'amour est la voie. Qui caricature un tout petit peu.
Je dirais l'amour, tout simplement. L'amour. Oui,
tu confonds l'expérience de l'amour avec l'état d'être l'amour.
Je pensais plutôt à l'état d'être l'amour.
Si tu l'as, il est définitif, tu l'es déjà.
On est, ouais. Je l'ai. Donc il nous met sur la voie, c'est celui-là.
Il n'y a pas de voie. Quel est le chemin de ce que je suis à ce que je suis?
Voilà, après l'état d'éveil, enfin, je peux le dire, j'ai quitté ce chemin-là.
J'ai pas compris.
En fait, non, je visualisais qu'en fait, l'amour, tout simplement, nous menait à être éveillé, à être. À être.
Voilà. Mais tu es déjà.
Moi, je suis d'accord. Ça plaît bien, la simplicité, mais c'est bien. J'en ai tellement mieux. Voilà.
Si je comprends bien ce que tu veux dire, mais je sens comme la mise en place d'une stratégie, tu vois, tu...
Non. Non, c'est sans stratégie, non. C'est parce qu'en fait, quand vous disiez qu'il y a plein de gens qui sont éveillés, qui sont, ouais. Voilà, et qui ne le savent même pas, ou qui le savent, non, qui le savent, mais qui ne le manifestent, voilà,
qui n'en parlent pas.
Qui n'en parlent pas, voilà, très juste.
Mais ça se manifeste forcément.
Je pensais à plein de gens que je connais, dans mes anciens, qui sont des gens extraordinaires comme ça, qui vivent d'une façon très simple et qui, voilà, et effectivement on le voit, c'est un rayonnement incroyable autour d'eux.
Voilà, voilà. Une liberté.
Oui, je me suis dit, ben voilà, c'est quand même beaucoup d'amour qui transparaît là-dedans.
Oui, que, voilà. Mais oui, même s'ils n'ont
même
pas
si
l'expérience.
C'est voilà, tout à fait.
Exact, oui, tout à fait. C'est dans ce sens-là, oui. Et surtout, tu es cela. Il n'y a pas de différence entre toi et eux.
Juste un peu handicapé. Non, parce qu'il y a des gens qui rayonnent. Oui, non, il n'y a pas de différence, mais c'est un fait qu'il y a des gens qui rayonnent et on bénéficie de leur rayonnement et il y a des gens qui.
Parce que toi, tu rayonnes pas, toi.
Moi aussi, je rayonne.
Alors, où est la différence? Stop. Il n'y a pas de différence.
Et si, quand même, il y a des.
Stop.
Des faits.
Regarde-moi.
C'est des faits. Des croyances.
Regarde-moi. Il n'y a pas de différence entre toi et eux. Respire ça.
Mais il y a des gens.
Respire ça.
Je le partage, mais il y a des conséquences.
Non.
Mais si.
Respire ça, juste ça. Il n'y a pas de différence entre toi
Ça, c'est un idéal pour moi.
Non.
On se fait plaisir, là.
Hein, non.
Mais si on se fait plaisir, il y a une différence.
Il y a juste l'espace de la croyance que tu viens interposer là maintenant, entre ce que je te dis et la réalité.
Ah non, il y a des conséquences concrètes.
Mais parce que quand je te le dis, tu ne le crois pas.
Si, je le crois.
Ben alors, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu ne restes pas juste avec? Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Je ne suis pas tout à fait d'accord.
Voilà. Et c'est quoi qui fait que tu n'es pas tout à fait d'accord?
Parce que c'est la réalité.
Mais en quoi? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas ça?
Ben en fait, il y a des êtres qui rayonnent.
Non, mais toi, qu'est-ce qui te fait dire que toi, t'es différente d'eux? En quoi t'es différente d'eux?
Parce que je rayonne moins qu'eux.
Ou plus?
En fait, disons que tout ce qui m'est donné, je n'arrive pas à le partager au mieux.
Qu'est-ce que t'en sais? Voilà.
Ça, c'est sûr, je sais pas tout.
Donc, peut-être que c'est pas vrai. Non, en toute fausse humilité.
Peut-être.
Oh, j'ai vu.
J'accueille. Il n'y a pas de souci, non, mais c'est vrai que.
Essaye de voir ce que je te souligne. Ça, je comprends que tu réagisses et que tu me défends. Mais justement, regarde la défense que tu viens mettre. Regarde la réaction. Non. Pas tout de suite. Non.
Non, mais c'est pas tellement dans le non, c'est dans mon désir de m'améliorer. De rayonner mieux, d'être vraiment.
Sous-entendu, lorsque je rayonnerai plus et que je serai mieux que ce que je suis, alors.
Déjà, c'est peut-être purement égoïste, hein. C'est peut-être purement dire on sera mieux, simplement, donc on sera mieux avec les autres. Voilà, hein, ça va pas plus loin que ça pour moi.
Et si, et qu'est-ce que tu sais de tout cela? C'est quoi la phrase? J'ai déjà oublié. Ah, c'est une catastrophe cette mémoire.
C'est passé.
Non, mais l'idée que tu viens de sortir, que j'ai déjà malheureusement oubliée, c'est là, regarde-la. Et cette mécunité, ce n'est qu'une pensée. En réalité, si tu regardes, tu verras que tu ne sais pas. Tu ne sais pas si ce sera mieux quand. Tu ne sais pas, tu n'en sais rien. Tu pars de l'idée que c'est pas parfait tel que c'est. Tu pars de l'idée que ça pourrait être mieux. Tu pars de l'idée qu'il te manque quelque chose, qu'il manque quelque chose. Ce ne sont que des idées, que des pensées, que conditionnées. Conditionnées. Si tu ne les avais pas, ces idées, si elles ne pouvaient pas apparaître, ce serait comment?
À ce moment-là, on fait comment là, la différence entre celui qui est éveillé, pas éveillé, celui qui
est... Il n'y en a pas. Il y a juste l'idée, il y a juste des idées crues qui viennent s'interposer. Il n'y a pas de différence.
Donc là, on est en train de discuter pour moi, alors.
C'est un jour. Mince, donc après, j'étais un interlocuteur intéressant. Fichu. Vous voyez comment on tombe de son piédestal, hein? Oh là là! Heureusement qu'il y a celle qui m'y avait mis, parce que sinon.
Mais
je rigole. Mais on ne fait que ça, on joue. C'est juste un jeu, c'est une apparition, c'est ce qui se produit. C'est ce qui apparaît. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Imagine que tu ne puisses pas penser toutes ces pensées, que toutes ces pensées ne puissent pas apparaître. À propos de ton insuffisance, à propos de ce serait mieux si j'avais pas tout ça, ce serait comment?
Ce serait
chouette, hein. Et si ces pensées apparaissaient mais que tu les croyais pas, que je vais te passer comme des nuages dans le ciel, ce serait chouette aussi, hein. C'est la seule différence entre toi et moi. S'il y en a une, c'est seulement celle-là. C'est que moi j'ai arrêté de croire à tout ça. Parce que toutes ces pensées ont été regardées, elles ont été vues comme j'en sais rien. Au mieux, j'en sais rien. Enfin, au pire, j'en sais rien. Au mieux, c'est évident qu'elles sont tellement fausses. Elles sont complètement fausses. Il n'y a pas de différence. Oh, j'aime. Là, j'aime. Non, mais laisse-toi toucher.
Ah, moi, je suis touchée.
Mais elle est là, la solution. Donc, peut-être que tu te laisses toucher.
En fait, peut-être que je m'exprime mal, mais...
Non.
C'est vrai.
Regarde comment tu te coupes d'être touché.
Mes parents ?
Regarde comment tu te coupes d'être touché, là, tout de suite. C'est parfaitement OK, il n'y a pas de souci. Et si tu te laissais être touché ? juste laissé être complètement bouleversé et que tout soit entraîné avec ça. Ça peut faire peur. C'est sans risque. Il n'y a que le faux qui s'effondre. Bon, je te lâche. Je suis encore là. Je ne sais pas si vous sentez qu'on est à un cheveu. On est tous à un cheveu. Et ça continue quand même.
Mais on est quand même différents. On a des niveaux différents.
Tu peux croire ça. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai?
Mais oui, mais bien sûr. Mais si je vois mon voisin malheureux, quoi, mais vraiment malheureux. Bah,
ça ne veut pas dire que demain il n'aura pas vu qu'il n'y a pas de moi et ce ne sera pas fini pour lui.
Voilà.
Rien
il rayonnera pas pareil que celui qui est éveillé. S'il est malheureux, malheureux, malheureux.
Dans l'instant T.
Ça lâche.
Dans l'instant T.
Ouais.
Mais ça n'affectera pas le bonheur que je suis.
Ah non, c'est certain, ça n'affectera pas, c'est sûr.
Ça ne veut pas dire que je ne pleurerai pas avec lui.
Voilà.
Ça ne veut pas dire que je le prendrai pas dans mes bras. Ça ne veut pas dire que je l'engueulerai pas. Ça ne veut pas dire que je sais. Tout peut apparaître. Tout peut apparaître.
Donc, à des niveaux différents, on ne peut pas être tout le temps merveilleusement bien, merveilleusement...
Mais bien sûr, mais ça n'a aucune espèce d'importance.
Voilà.
Tu n'es pas ça.
Non, non. Voilà. On peut être accepté de faire peut-être comme tous les états.
Mais il faut, c'est beaucoup plus fort.
Accepter ou, voilà, recevoir...
Tous les états apparaissent au sein de ce que tu es. Et on fait l'intelligence. Il n'y a aucun souci avec ces états. Cependant, lorsque les pensées cessent d'être crues, il n'y a plus de souffrance. Et il n'y a personne qui peut arrêter de croire aux pensées. Parce qu'il n'y a pas de moi. Vous pouvez y croire ou vous ne pouvez pas y croire. Croire aux pensées apparaît, ne pas croire aux pensées apparaît. Et il se trouve que ce genre d'échange qu'on a là aujourd'hui, ce soir, il semble bien que statistiquement, ça favorise de plus tard de croire aux pensées. De même que d'apprendre aux enfants que 2 et 2, ça fait 4. A priori, ça les conditionne. En fait, ce qu'on fait dans ce genre de réunion, c'est le regard qui s'adresse au regard. C'est ce qui est qui s'adresse à ce qui est. Ça fait juste résonner une mémoire. Ça fait juste aviver ce que vous êtes, que vous avez toujours été, que vous savez être. C'est frappant quand les gens réalisent, ils disent tous, ils disent, c'est vite, mais comment j'ai fait pour voir plus tôt, ou comme moi, ou bien... Ah, mais c'est évident, mais ah bah oui, ah oui, mais j'ai toujours su. Le nombre de gens qui disent, oh, mais j'ai toujours su. Bonjour, je ne le prends pas personnellement, sinon je me dirais, ben alors je ne servis à rien. Mais ça, Gérard, vous le savez déjà. Bah oui, tu l'es. Comment tu pourrais pas le savoir? Tu l'es. C'est un après-coup, ça aussi. Avant, on croit qu'on ne sait pas. Ce n'est qu'une croyance.
Non, je pensais la solution en fait, le chemin, c'est de regarder nos pensées, voir, enfin c'est d'être de plus en plus conscient, enfin comment dans la vie de tous les jours, parce que comment faire,
Voilà, Madame Marchi disait la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de vous asseoir au pied d'un sable.
D'un sage.
D'un sage. Je sais que nous sommes que des primates. Merci de me le souligner. Elle est fine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute stratégie que vous allez mettre en place dans le but de s'appuie sur l'idée d'un moi qui peut atteindre quelque chose par ses propres efforts.
Or, il n'y a pas de moi. Donc, c'est voué à l'échec. C'est la raison pour laquelle vous n'y arrivez pas. C'est la raison pour laquelle, depuis que vous essayez d'y être heureux, et ça fait des millénaires que les gens essayent d'être heureux, personne n'y arrive. Parce que personne ne peut le faire. Il n'y a pas un moi qui peut le faire. Il n'y a pas de moi. Ça, c'est... Ça ne veut pas rentrer.
Et si la question, c'est simplement quel processus conscient peut être mis en place pour aider à voir
ça? Je crois que la salle t'a répondu. C'est juste trouver une autre formulation pour jouer la même stratégie.
La même question.
Mais ça ne veut pas dire on ne peut rien faire. Parce qu'il n'y a pas moi qui ne peut rien faire. De même qu'il n'y a pas un moi qui peut faire quelque chose, il n'y a pas un moi qui ne peut ne rien faire.
C'est impossible de dire.
C'est le grand pignon.
L'idée, le problème, c'est de croire qu'il y a un moi qui peut faire quelque chose. Or, la question que tu poses s'appuie sur cette idée d'un moi. Et ça, je dis, non, tu peux pas. Il n'y a pas de moi. C'est pas sur le peut pas qu'il faut appuyer, c'est sur le tu. Cependant, tu es, regarde, tu es ce que tu es. Tu es ce que, apparemment, ce moi recherche. Tu es ce que tu crois chercher. J'essaie de faire des périphrases, mais tu vois ce que je veux dire. En réalité, tu l'es déjà et tu ne peux pas ne pas l'être. Donc, il n'y a rien à faire. Ça, c'est la bonne nouvelle. En ce sens-là.
C'est de rester stoïque.
Non, sûrement pas, c'est encore une stratégie.
Et lâcher, ça fait peur.
Mais non, tu peux pas lâcher, il n'y a pas un moi qui peut lâcher.
T'as rien lâché là.
Oui, mais quand vous le saisissez depuis des années, ce moi, il faut bien le lâcher avant de le...
Mais qui va le lâcher? D'abord, tu vois le moi qui se lâche lui-même, ça marche pas. Ensuite, il n'y a pas un moi qui peut lâcher quoi que ce soit. Donc, lorsque vous lâchez prise, c'est pas vous qui lâchez prise, ça lâche prise. À un moment donné, ça se fait. Si vous regardez de près. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que ce que tu es est regard, est écoute, est être avec, est le témoin, est le je suis, enfin on peut mettre les mots qu'on veut, peu importe, l'idée est là. Et ceux-là qui constatent ce qui se passe, c'est ceux-là qui regardent. C'est pas tout à fait juste, mais enfin, disons qu'on va vers des paroles à peu près justes. Tu es le regard. Et seul ce regard va voir que l'idée d'un moi est une pensée crue, fausse, crue à tort. C'est pour ça que souvent je dis regarde, mais ça ne s'adresse pas à moi. C'est le regard qui s'adresse au regard. C'est comme de faire résonner la cloche, si tu tapes dessus, à force ça va sonner, quoi.
Et c'est pour ça que c'est dit, il faut quand même rencontrer des gens comme vous, ou des stages, etc. C'est un guide, ou je ne sais pas comment dire, pour mettre sur la voie. Ou...
Oui et non, j'en sais, tu sais, il y en a, ils sont veillés spontanément à tout bout de champ, n'importe quand, n'importe comment, donc oui et non. Et de toute façon, tu es ce que tu cherches, donc tu l'es déjà. Donc ça peut transparaître à n'importe quel moment. Mais il se trouve qu'effectivement, les gens qui assistent à ce genre de réunion, de rencontre, ont plus de chances que ça se produise. Statistiquement parlant, il semblerait bien. Encore que les statistiques, on les a pas. Mais.
Ce qui m'inquiète, c'est de demeurer dans
ces états. Bon, ça m'inquiète pas.
Je
sais pas.
Mais
tu l'es.
Ça va.
Tu l'emmènes avec.
Non, tu ne peux pas le perdre, tu l'es. Tu peux avoir l'impression de le perdre.
Oui, l'impression.
C'est très différent. Parce que si tu dis je l'ai perdu, ça devient ta réalité. Si tu dis j'ai l'impression de l'avoir perdu, là tu as une porte d'entrée. C'est juste une expérience. Et qu'est-ce que c'est qui a l'impression de l'avoir perdu? Si je l'ai perdu, c'est fini. Toi, c'est fermé. Si j'ai l'impression de l'avoir perdu, mais c'est quoi qui a l'impression d'avoir perdu ce qu'il est? C'est possible. En plus, c'est pas possible. Mais c'est quoi? Ça n'a pas de sens.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Est-ce que tu sens que ça n'a pas de sens? J'ai l'impression de l'avoir perdu.
Il y a un blocage où c'est le moi qui fait barrière. Enfin, je ne sais pas. Après,
qu'est-ce qui se passe?
On a l'impression.
Oui.
Non, justement, je ne comprends pas, en fait. Je n'y arrive pas. Comme si il y avait... Non, on est déconnecté, on n'est pas... J'ai l'impression d'avoir perdu cette paix, là, ce où il n'y a plus de pensée, rien.
Ok, j'ai l'impression d'avoir perdu la paix. C'est constaté.
Mm-hmm.
Regarde cela qui constate. Est-ce que cela qui constate, j'ai l'impression d'avoir perdu la paix, a perdu la paix? Non.
C'est très difficile.
Où est la paix?
Voilà, c'est toujours là.
Voilà, naturellement droit. Tout d'un coup, tu réalises que. Mais c'est quoi ce bordel? Ça croit des trucs complètement faux. Ça croit en permanence des trucs complètement faux. C'est exactement ça. Ça croit l'histoire qui se raconte. Et tu vois, tu viens d'avoir la démonstration qu'elle était fausse. Tu crois avoir perdu la paix, si tu regardes, tu es toujours là. Tu l'as toujours été. Tu ne peux pas ne pas l'être. C'est exactement ça. Tu dis, mais c'est quoi ce bordel? Ça n'a pas de sens. Ça croit avoir perdu la paix, après ça cherche la paix, et ça ne peut pas ne pas être la paix, et ça n'a jamais perdu la paix. C'est tellement bon de voir ça. Ah là là, qui c'est beau ça. Tu as dit c'est quelque chose. Merci beaucoup.
Merci.